Bienvenue dans notre espace d'échange et d'analyse croisée où nous explorons les multiples facettes de l'actualité. Aujourd'hui, nous partons en Inde. On dit souvent que la présidence indienne est une coquille vide, n'est-ce pas ?
Oui, une fonction purement honorifique en général.
Exactement. Pourtant, l'élection éclatante de Droupadi Murmu, dont les résultats officiels ont été confirmés ce 21 juillet, vient un peu paralyser l'opposition.
Et redessiner la carte politique, absolument.
À 64 ans, elle est la première personne d'origine Adivasi, issue de la communauté santale, à accéder à la magistrature suprême. Moi, je suis convaincu que c'est une transformation profonde de la démocratie.
Et de mon côté, je suis persuadée que quand on regarde la mécanique électorale, c'est surtout une stratégie implacable du pouvoir en place, eh bien, en vue des législatives de 2024.
C'est vrai que le contraste est fort. On a d'un côté cette ascension fascinante. C'est une ancienne enseignante d'un village reculé d'Odisha qui a surmonté des tragédies personnelles immenses, la perte de son mari et de deux de ses fils.
C'est un parcours bouleversant, c'est indéniable.
Oui, vraiment. Et pour les 9% de la population indienne autochtone, c'est une représentation inestimable. C'est un espoir immense.
Je l'entends bien. Mais derrière cette trajectoire puissante, se cachent des mathématiques électorales très froides. Il faut rappeler que c'est un scrutin indirect extrêmement complexe.
Ah oui, le fameux collège électoral.
Voilà, c'est ça. Environ 4800 grands électeurs. Le système de pondération est tel que le poids du vote n'est pas fixe. Il est calculé proportionnellement à la population de chaque État.
D'où qu'un calcul très précis de la part du Parti nationaliste hindou, le BJP.
Totalement. En choisissant une candidate issue des communautés tribales, le gouvernement de Narendra Modi s'assure de séduire des régions démographiquement clés. La fonction présidentielle devient un véritable paratonnerre politique.
Pas paratonnerre, disons, dans le sens où elle attire la foudre positive, l'émotion populaire.
Exactement. Et surtout, elle dévie l'attention. Pendant qu'on célèbre cette victoire au Parlement avec, vous savez, le fameux stylo violet réglementaire, on masque des réalités brutales.
Lesquelles, selon vous ?
Eh bien, la misère endémique, l'accaparement des terres ou encore les déplacements massifs liés aux projets miniers. Des projets qui frappent de plein fouet ces mêmes communautés adivasises. C'est une vitrine parfaite pour adoucir une trajectoire gouvernementale très dure envers les minorités.
Je vous l'accorde, le pouvoir exécutif est hyper concentré aujourd'hui et l'agenda électoral est évident. Mais ce qui rend cette élection redoutable, c'est le phénomène de vote transversaux qu'on a observé. Des élus de l'opposition ont sciemment franchi les lignes partisanes pour voter pour elle.
Bah, parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix politique.
Précisément. Voter publiquement contre la première candidate autochtone de l'histoire, c'était un suicide politique pur et simple dans beaucoup de circonscriptions. L'échec du candidat de l'opposition, Yashwant Sinha, était programmé dès le départ.
Mais c'est là tout le cynisme de la manœuvre. L'image de l'inclusion ne résout pas la marginalisation persistante.
Sauf que vous sous-estimez l'effet domino de ce pouvoir symbolique. Même si l'exécutif quotidien lui échappe, c'est elle qui promulgue les lois depuis le palais présidentiel de Rashtrapati Bhavan.
Ce qui reste très protocolaire, honnêtement.
En temps normal, oui. Mais en cas de crise constitutionnelle ou d'un parlement sans majorité claire, le président devient l'arbitre ultime. Placer une femme issue des franges les plus marginalisées à cette position de recours institutionnel, ce n'est pas qu'une simple vitrine.
Je conçois que l'émotion suscitée est bien réelle. Savoir que dans son village natal du Parbeda, les habitants ont repeint les temples locaux et organisé des prières à l'annonce de sa candidature, ça prouve un impact psychologique fort.
C'est colossal comme impact sur le terrain.
Certes, mais une image, aussi inspirante soit-elle, ne modifie pas les rapports de force structurels de l'Inde d'aujourd'hui. Les vifs débats sur l'orientation nationaliste du pays ne vont pas se dissiper simplement parce qu'une personnalité issue de la diversité occupe ce poste.
Peut-être pas se dissiper, non. L'opposition tente d'ailleurs de se rassurer en affirmant qu'elle a au moins livré bataille sur le terrain des principes.
Ce qui montre bien leur position de faiblesse actuelle.
Oui, le pouvoir en place a prouvé qu'il maîtrise l'art d'imposer un récit national imparable. Un récit qui désarme toute critique frontale.
Nous verrons bien. Ce récit sera mis à l'épreuve bien assez tôt. Le véritable test de cette prétendue inclusion ne se joue pas maintenant dans les couloirs de New Delhi. Il se jouera lors des prochaines élections générales de 2024. C'est devant des centaines de millions d'électeurs que nous verrons si l'illusion symbolique suffit.
En tout cas, nous pouvons au moins converger sur une vérité essentielle de la scène politique indienne. Si le rôle du président est avant tout protocolaire, le symbole, lui, est une monnaie d'échange lourde de conséquences. Il structure la réalité du pouvoir.
Absolument. Dans la plus grande démocratie du monde, la symbolique ne remplace pas la mécanique institutionnelle, elle l'optimise.
C'est joliment dit. Et c'est précisément cette interaction constante entre arithmétique électorale et force des symboles qui rend l'observation de ce pays si captivante. Nous laissons à nos auditeurs le soin de continuer à scruter ces dynamiques et d'en tirer leurs propres conclusions. À la prochaine pour un nouvel échange.